À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Donatien Laurent. Troisième rencontre, l'aventure du Barzaz Braise ou la preuve par l'écrit. Chaque jour, Donatien Laurent, nous cernons d'un peu plus près le champ de vos recherches autour du domaine qui vous occupe depuis 50 ans, hein, je crois que je ne me trompe pas, 50 ans, l'ethnologie. La Bretagne et son imaginaire font partie de votre paysage depuis l'enfance et c'est à travers votre connaissance de la langue bretonne, qui pour vous est d'ailleurs indissociable de la musique comme outil véhiculaire d'une mémoire, que vous travaillez sur la littérature orale. Et comme par un effet de zoom avant, nous voici aujourd'hui arrivés au cœur d'une des composantes la plus connue, la plus célèbre de la littérature orale bretonne. Je veux parler du Barzaz Braise et de toute l'aventure qu'a déclenché pour vous l'étude de ce corpus de chants qu'avait rassemblé dans les années 1830 le vicomte Théodore Hersart de la ville Marquet. Mais d'abord, Donatien Laurent, à nos dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire Barzaz Braise ?
La ville Marquet traduit ça par histoire poétique de la Bretagne. Barzaz est un mot qu'il a emprunté au gallois. Au gallois, Barzaz, bard, c'est un bard, mais là, du coup, c'est un... en Bretagne, c'est extrêmement répandu. Vous avez des lebars par centaines. Des lebars, c'est un nom porté aujourd'hui, et barz, c'est bien le bard, et c'est le gallois bard. Mais on n'avait pas en breton le substantif, le mot bardas, que Lévin Marquet donc a emprunté au gallois, où il est glosé dans le dictionnaire ancien gallois, Historia Poetica. Et ça veut dire l'histoire poétique de la Bretagne.
Et donc, comme vous nous le dites et comme vous allez nous l'expliquer, Donatien Laurent, on est peut-être dans la... Comment dire, dans la proto-histoire de l'ethnologie, dans une sorte de proto-ethnologie, tout ce travail qu'a fait le vicomte Hersart de la ville Marquet, donc vous allez nous dire aussi qui il est, et tout ce travail de collecte alors qu'il a fait.
Théodore Hersart de la ville Marquet est né dans une famille noble de la région de Quimperlé, et il était le dernier enfant d'un comte, le comte de la ville Marquet, qu'on allait lui marquer, qui était, je crois, il a été député républicain. Donc, Lavine Marquet s'est très tôt intéressé à... Bon, la langue bretonne, c'était forcément une de ces deux langues, puisque à cette époque-là, le début du... Il est né en 1815. Et à cette époque-là, la Bretagne parlait breton, et ne parlait que breton, dans toutes les campagnes. Son manoir était situé dans la campagne, dans les cuisines on ne parlait que breton, dans les domestiques ne parlait que breton, et bien évidemment la famille d'Alvin Marquet, même si elle était évidemment, elle parlait français, elle savait très bien le français, on utilisait les deux langues, suivant les personnes à qui on s'adressait. Et il s'est très tôt, mais c'était donc effectivement la période romantique à cette époque-là, né en 1815, il y avait Chateaubriand qui était le grand nom de la pensée bretonne, de la poésie bretonne, enfin en français évidemment, lui. Il était né à Saint-Malo, c'est une partie de la Bretagne dans laquelle on ne parle pas breton, mais Lavin Marquet s'est tout de suite senti en... passionné pour cette matière. Il a...
Dans un grand accès de romantisme, alors, finalement.
Mais en même temps, voulant justement que la langue bretonne y ait sa part, et s'intéressant aussi, étant particulièrement sensible à la chanson, parce que sa mère, la dame de Nison, qui soignait... elle faisait un peu à cette époque-là
œuvre de charité,
c'est ça, l'assistante sociale. Enfin, bon, elle s'occupait souvent des pauvres qui arrivaient, qui avaient besoin de remède, et elle les soignait. Donc, c'est au moins le tableau qu'en fait Lavin Marquet, son fils, avec qui il avait une très grande dévotion pour sa mère. la dame de Nison. Et il dit que sa mère, justement, quand les gens qu'elle soignait, elle avait un jour pour soigner les gens, il y avait un grand défilé de pauvres qui venaient. Quand il demandait, bon, est-ce qu'on vous doit quelque chose ? Il dit, absolument pas, mais chantez-moi quelque chose, j'aime bien vous entendre chanter. Et il dit, la ville marquée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais il n'y a pas de raison de contester ça, que le goût pour la chanson bretonne lui est venu de ce qu'il entendait chez lui quand les gens que sa mère venait de soigner ensuite chantait. Donc mon intérêt pour la ville marquée, il était dû au recueil que mon père avait dans sa bibliothèque. Et effectivement, je l'ai lu et j'ai été assez effaré de voir que depuis, la ville marquée donnait donc une série de chants qui couvraient toute l'histoire de Bretagne depuis l'Antiquité, pratiquement l'Antiquité druidique, puisque son premier texte était dans la troisième édition, un dialogue entre un druide et un enfant, bon, qu'on appelle les séries, etc. Effectivement, c'est assez remarquable de voir que pour tous les événements qui se sont passés dans le coin, aussi bien dans le Trégor que dans le Léon, que le Vintet, la Cornouaille, il y avait des chants, on faisait un chant pour garder la mémoire des événements.
Et tout ça, il avait recueilli, alors.
Et c'est lui qui... Donc, il a été, mais il n'a pas été le premier. Avant lui, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui était Aymar de Blois de la Calande, qui était un novicier de marine du XVIIIe siècle, et qui a été le premier, avant la ville marquée, si vous voulez, à s'intéresser à cette poésie orale-là, et le premier à la transcrire. Alors lui, Aymar de Blois de la Calande, était du côté de Morlaix, enfin dans le Léon, mais près de Morlaix, et dans le nord donc, et la ville marquée, c'était le sud. Et à l'image d'Aymar de Blois, qui était donc d'une génération antérieure à lui, la ville marquée s'est dit, tiens, c'est intéressant, et il s'est lancé lui-même dans la collecte auprès des gens de sa paroisse de Nison, et puis en élargissant le cercle, il a gagné d'autres terroirs, et il a fini, effectivement, jusqu'en 1838, qui est l'époque où il avait fini son manuscrit, il avait couvert à peu près toute la basse Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne de langue bretonne, pour rechercher les chants. Donc, moi, j'ai trouvé ça dans les années 1950, par exemple. Ça m'a beaucoup intéressé, mais dès les années 60, par exemple, a repris ce qu'on appelle la querelle du Barzabray, c'est-à-dire que tout un mouvement de pensée a dit... Mais, tout ça, c'est rigoureusement, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des chants faux. Donc, effectivement, la ville marquée passait aux yeux des gens sérieux, des gens qui ne se laissent pas compter, pas pour quelqu'un qui avait fait un recueil, bon, très beau, etc., mais qui n'était pas authentique et dont toutes les versions avaient été retouchées ou même inventées complètement. C'est ce que disaient en particulier mes collègues ici de la section de celtique de Brest, là, par exemple, étaient vigoureusement contre. Même après que j'ai eu publié ma thèse qui donnait effectivement
les preuves,
si on peut dire. Enfin bon, les gens, c'était une position beaucoup plus idéologique que raisonnée, si vous voulez.
Idéologique, pourquoi alors ?
Idéologique parce qu'on considérait que c'était que la ville marquée. Donner une vision de la Bretagne qui n'était pas juste, la Bretagne éventuellement qui avait été royaliste, puis le duché de Bretagne et tout ça, c'est des choses, ça paraissait difficile de... je ne sais pas, enfin, c'était une vision qui était caractérisée comme étant de droite, alors que les pauvres gens qui dictaient ça étaient, eux, pour seulement... En accord avec ce qu'on leur avait dit, leur passé et tout ça. Mais c'est un fait qu'on pouvait tout à fait suspecter la ville marquée d'avoir retouché dans un sens qui lui convenait, les textes.
Il avait fait quoi, une sorte de restauration à la Viollet-le-Duc, des textes
Par exemple, c'est un très bon exemple, Viollet-le-Duc, parce qu'effectivement, c'est l'époque où, en plein romantisme, on se dit, mais tiens, c'était quand même bien, les châteaux d'autrefois, l'architecture d'autrefois, donc on se disait, on va refaire un petit peu la même chose. Et c'est un fait que c'est un reproche, le reproche de refaire du vieux avec du neuf, si vous voulez. On a reproché ça à ces gens-là, et lui donnait pourtant les noms des personnes auprès de qui il s'était... Donc, si vous voulez, moi, c'est vrai
oui,
que...
Oui, et vous, Donatien Laurent, donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire?
Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vrai, je l'avoue, c'est le côté intrigue policière. Et voilà. Il y a eu un chercheur, on peut dire, enfin, c'est quelqu'un de Morlaix, qui s'appelait Fañch Gourville, qui a, lui, pris position complètement contre la ville marquée.
Et alors, ça, c'était quand dans les années 60, enfin, de 1960, à peu près.
C'est ça. Oui. Et il a soutenu une thèse en 1960, et dans laquelle il s'en prend à tout. Il n'y a pas un cheveu qui reste debout, même les airs, alors qu'il ne connaît pas grand-chose en musique. Bon, la musique l'intéressait, là, mais enfin bon. Et alors moi, je me suis trouvé devant ce dilemme
C'est-à-dire que vous avez eu envie d'élucider cette histoire.
Oui, j'ai eu envie de savoir ce qui se passait. Enfin, d'autant plus que, personnellement, moi, j'avais déjà, dès les années 55, ça un peu par hasard, donc avant d'entrer au CNRS, avant même de faire mes études d'ethnologie, ça m'intéressait, le breton m'intéressait, j'avais appris le breton, et puis je m'étais trouvé à recueillir comme ça, au hasard de mes rencontres, des chants dont j'avais mon Luzel, j'avais mon Lavine marqué, et je voyais qu'éventuellement, j'avais des versions qui étaient plus proches de Lavine marqué que de Luzel, ou en tout cas, et que donc, les reproches qu'on faisait à Lavine marqué, il y avait sûrement à y revoir, et à reprendre ça. Bon. Mais Lavine marqué n'avait laissé aucun papier. Son fils, Pierre de Lavine marqué, qui lui a succédé de la propriété de Kerensker, a fait une biographie de son père. Il s'est lancé là-dedans pour essayer de défendre la mémoire de son père. Et le pauvre n'a pas réussi à tirer parti de ce qu'il avait. Alors il dit, oui, j'ai des carnets, oui, pas mon père, je vois à telle part, etc. Et finalement, il ne sait pas quoi faire de ces textes-là. Ouais. Donc il dit, je retrouve, mais il ne cite que 3-4 vers, ouais. C'est tout.
On peut dire que vous, Donatien Laurent, vous avez mis fin à une querelle d'un siècle. C'est quand même un bonheur pour un chercheur, ça, non?
J'aurais mis fin quand j'aurais fini de publier ces carnets.
Mais alors, dites-nous comment, alors, dites-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'effectivement, je suis allé voir M. Lavine marqué, donc le général de Lavine marqué,
qui était l'arrière-petit-fils
de Lavine marqué, dont le grand-père avait cherché, lui, le grand-père qui avait fait Pierre de Lavine marqué, qui avait fait un livre pour essayer de dédouaner son père, mais le
sans
livre
succès.
Non. Et donc, moi, je me suis dit, je vais aller voir si, quand même, si il a recueilli des choses, comme il le dit, et mes collègues à moi me montraient qu'il y avait forcément des versions, puisqu'elles ne sont ni chez Luzel, mais qu'elles sont pas, que je trouvais des versions qui étaient dans le Bras-Brise, éventuellement, je me disais, il a forcément recueilli ça. C'est pas lui qui l'a inventé. Donc je me suis dit, partons en chasse d'abord. Donc j'ai commencé par passer des années, toutes mes vacances, pendant mes vacances, à chercher des chanteurs, etc., et à les mettre sur ça. Et
puis, à vélo
à vélo ou en stop éventuellement.
Avec le nagra?
Ah non.
Sur le dos?
Non.
Le nagra, c'était le magnétophone.
Le nagra, c'est après. C'est, ouais. Oui, c'est après. Non, je n'arrivais jamais chez les gens avec un magnétophone, même parce que, bon, ben, ça les aurait... Les gens n'aiment pas être... qu'on les enregistre comme ça, éventuellement, alors qu'ils ne vous connaissent pas bien. Enfin, bon, donc, je venais avec mon carnet de notes, et puis je les interrogeais, et puis éventuellement, en m'excusant, je griffonnais quelque chose, puis j'en revenais une seconde fois, puis etc. Bon, puis la troisième fois, j'en venais avec un magnétophone, éventuellement, si tout s'était bien passé, et si surtout, ce qu'ils m'avaient donné me paraissait une pièce intéressante dans le débat. Donc, effectivement, ayant vu que, manifestement, la ville marquée avait eu des textes, beaucoup de textes, que Luzel n'avait pas eu, parce que Luzel lui-même, et c'est ça dont je me suis rendu compte, c'était lui-même empêché de publier ses plus belles versions dans la mesure où il craignait qu'elle donne du blé à moudre aux partisans de la ville marquée. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais reprendre l'affaire. Et je suis allé voir Monsieur David Marquet, il m'a très bien reçu. Moi, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, voilà, il y a un gros problème que vous connaissez, il le connaissait bien. Je suis persuadé que votre arrière-grand-père avait effectivement recueilli des choses, contrairement à ce qu'on dit, et je pense que si, dans une première époque, il a paru difficile à ses héritiers de faire connaître des textes qui étaient griffonnés, écrits un peu dans tous les sens et qui ne correspondaient pas exactement aux versions d'Ibartas Bray. Donc on aurait toujours trouvé moyen de lui dire « c'est pas ça qu'il a fait connaître ». Donc je lui dis, pour sa mémoire, je suis certain que si vous avez quelque chose, ça serait extrêmement important de le faire connaître, tel que c'est et de montrer justement qu'il avait eu la chance, parce qu'il enquêtait à une époque qui était les années 1840. C'est une époque où on était tout près de la Révolution, de la chouannerie, de tous les problèmes, de tout ça. Et on était dans une Bretagne complètement bretonnante, avec une mémoire vivante et une mémoire qu'on n'osait pas, ça je me suis rendu compte aussi, qu'on n'osait pas communiquer avant de savoir à qui on parlait. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois que des gens, au cours de la conversation, s'avancent à me dire des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire connaître à d'autres et les voir fermer la porte à clé, par exemple, pour qu'on soit tous les deux seuls, pour qu'ils me disent le texte comme ça, mais sans qu'il y ait des oreilles adverses ou des oreilles... Qu'il n'aurait pas
à entendre.
Oui, voilà. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, M. Lévi-Marquet me dit, écoutez, moi, je suis persuadé, mais je ne sais rien du tout de ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que j'ai, mais si j'ai quelque chose, je veux bien vous le montrer. Donc, je me suis dit, c'est formidable. Et je me suis dit, à espérer, puisque j'avais enfin, moi... accès à ce qu'il y avait, s'il y avait quelque chose, alors que quand la querelle a éclaté dans les années 1930, 1940, 1950, après la guerre, là, il n'était pas question, c'était encore la querelle qui reprenait, etc. Et, bon, je me suis dit, eh bien, enfin, je vais peut-être avoir accès, s'il y a quelque chose. Et je me rappelle ce coup de fil qu'il m'a dit, écoutez, oui, j'ai trouvé dans le vieux manoir, donc c'était pas chez lui, c'était dans le vieux manoir habité par les paysans. Dans le vieux manoir, il y avait une tour dans laquelle il y avait une salle où étaient tous les papiers l'archive. De la famille, les archives de la famille. Et pendant toute la guerre, Madame de la Ville-Marquet, la mère du général à qui je parlais, qui était colonel à l'époque, la mère avait vécu là pour empêcher, parce qu'elle savait que fallait surtout pas que les Allemands y aillent, parce qu'éventuellement les Allemands, ça les intéressait. Ils sont intéressés, eux, aux études celtiques, oui. Alors qu'en Bretagne, fallait pas. En France, même, c'était mal vu. Donc, Madame d'Herville-Marquet s'était dit, elle avait comme mission d'empêcher les gens d'approcher. Bon. Et donc, un beau jour...
En 63,
vous connaissez mieux ma biographie que moi. En 63, et c'est pas par la tradition orale, en 63, donc, effectivement, je me suis rendu à Carensker et on a ouvert lui-même, il ne l'avait pas fait avant, et on a ouvert dans la tour, là, on a ouvert un placard. Et puis on a trouvé un petit sac dans lequel il y avait une étiquette collée de la main de la ville marquée lui-même, qui était conservée précieusement ses manuscrits, c'est tout. Bon. Et puis donc on a ouvert le sac.
Tremblant là, non?
Ben, tremblant d'espoir, enfin plutôt déjà convaincu qu'on savait mais précieusement ce manuscrit écrit de la main de la ville marquée, ça pouvait pas être autre chose. Donc on a trouvé là trois carnets, et ces carnets étaient couverts de la fine écriture de la ville marquée. Avec des versions dans tous les sens, une première version, une seconde version dans la marge moins complète, puisqu'il n'avait mis dans la marge que ce qui manquait à la première, une troisième dans les interstices qui restaient, éventuellement une quatrième entre deux lignes, par exemple. Enfin, c'était vraiment... Je comprends que le pauvre fils de la ville marquée se soit dit « Non, je ne vais pas rien y faire, je ne pourrai jamais étudier ça. Enfin, » donc
Et de fait, ce n'était pas déchiffrable tout de suite, ça.
Ce n'était pas déchiffrable tout de suite, non. Et moi-même, j'ai mis, 10 ans à venir à bout du premier carnet, qui était le plus gros, 360 pages, je crois, le premier carnet. Et donc, c'était l'essentiel, c'était le premier dans lequel il y avait ces collectes du début, quand sa mère était encore vivante. Enfin,
c'est-à-dire, il prenait sous la dictée ?
Ah oui, tout ça a été pris sous la dictée. Pris sous la dictée, avec entre-temps des petites notes sur « Tiens, je suis à tel endroit, je rencontre un tel... »
Et tout ça, c'était en breton, évidemment.
Pas ses notes à lui. Ses notes à lui étaient en français, mais tous les textes étaient évidemment en breton. Il n'était pas question d'autre chose. C'était des textes entièrement en breton, dans les dialectes. Alors, heureusement, il avait une excellente oreille. Et il était plus fidèle à la transcription que ne l'a été Ulusel. Moi, je peux le dire, parce que je vois dans les...
Vous avez vu aussi les carnets de Ulusel.
Oui, alors je vois que les carnets de Ulusel sont très bons, mais quand Ulusel fait connaître par écrit ce qu'il a enregistré, il change les mots, il met des mots qu'il trouve plus honnêtes, etc. Donc, du simple point de vue de la rigueur scientifique, Ulusel n'est pas non plus digne de la réputation qu'il a eue.
En tout cas, Donatien Laurent, un petit mot à propos de la question que suscite toute cette aventure du Barzaz-Breiz. C'est une question par rapport à l'ethnologie, puisqu'évidemment, la ville marquée n'avait absolument pas une attitude qu'on dirait ethnologique aujourd'hui, quand il a fait ses...
Non, il n'avait pas une étude scientifique, il ne se rendait pas, même pas compte. Son premier, c'est vrai que son premier désir, c'était de faire remonter la poésie bretonne et la langue bretonne montrait que c'est pas comme on a pu le dire, une langue de gueux. Il a voulu, lui, montrer que ça ne l'était pas. Et dans son désir de le faire, il a fait tout ce qu'il pouvait pour arranger la source, pour retrouver éventuellement des identités dans les chansons historiques, par exemple. Il disait, ah ben là, c'est un tel, c'est certainement un tel au XIVe siècle. Donc, comme le nom n'était pas dans la chanson, éventuellement, il rajoutait le nom. Ou il déformait des vrais noms pour en mettre un autre qui ressemblait, parce que ça lui permettait de faire monter la chanson. Il a peut-être, je pense qu'il a fait ça de bonne foi au début, et je sens bien qu'il le dit d'ailleurs lui-même, il dit combien il a été ça lui a tordu les boyaux de voir qu'on considérait comme faux tout son travail. Et en même temps...
Et il ne l'a jamais prouvé.
Et en même temps, non. En même temps, il se sentait... il savait qu'il ne pouvait pas donner les textes tels quels parce qu'il avait profité de différentes versions et que ça ne se faisait plus à l'époque. La position scientifique avait changé. C'est vrai qu'il avait fait un travail dessus, il l'avait fait en toute bonne foi, peut-être, mais aussi en tout désir de prouver que cette chanson était très belle, et malgré tout, il a effectivement, quand il disait « Tiens, ben, ce chant-là, ça doit être tel épisode de l'Histoire de Bretagne », il avait son « Histoire de Bretagne » de Bertrand d'Argentré, par exemple, 1590, ou un truc comme ça, sur son bureau. Il voyait tel événement qui s'était passé, et puis il dit « Ah ben, ma chanson, c'est certainement ça. Alors, puisque c'est certainement ça, je vais retoucher, et voilà. » Donc, il a fait des trucs comme ça, c'est certain. C'est certain. Il a même peut-être fait pire, mais encore faut-il le prouver. Et donc, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans cette affaire. Et alors, moi aussi, il fallait que je me défende de ceux qui étaient pour la vie marquée à fond et qui voulaient absolument avoir toutes les pièces, etc. Il fallait que je me garde de ceux qui, ici par exemple à Brest, disaient « mais tout ça c'est de la connerie, ça n'existe pas, tu le sais bien, enfin bon ». Voilà, et qui éventuellement écrivaient ces... On sait bien que c'est un faussaire, on sait bien qu'il n'a rien recueilli. Même un type comme, pour ne pas dire les noms, mais un type comme Marcal, par exemple. Marcal a dit des choses sur Marcal qui, au contraire, aurait dû être tout à fait pour la ville marquée, l'imagination, la poétique et tout ça. Mais il a écrit des choses, disant, bon, on sait bien que la ville marquée est un faussaire. Bon, bon, mais au nom de quoi vous dites ça? Je ne l'ai pas dit. Mais enfin bon, il m'aurait dit, ben, au nom de Luzel, etc. On le sait bien.
Donc vous êtes resté, vous, scientifique.
Moi, je suis resté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité.
C'était À Voix Nue. Simone Douek s'entretenait avec Donatien Laurent. Réalisation Gilles Davidas. Prise de son Chantal Nouvelot. Demain, la Gouerse de Louis Lauravalec, tradition, orale et histoire.